Madame la ministre, s'il vous plaît, témoin, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Dans une de vos sorties sur les Twitter, vous avez appelé à la réforme des Nations Unies pour la République centrafricaine. Si réforme il devait en avoir, cela devait porter sur quoi exactement?
Dans le cadre de l'opération qui est menée aujourd'hui en République centrafricaine, nous sommes dans une opération qui est dite une opération de maintien de la paix. Et le contexte centrafricain aujourd'hui, qui est un contexte où nous avons une tentative de déstabilisation, donc des attaques orchestrées par la rébellion de la CPC, il me semble évident. Aujourd'hui, il est urgent et impératif d'avoir justement une opération qui assoie la paix. Parce que comme le mot l'indique, maintenir nécessite le fait d'avoir déjà être dans une situation de paix fragile et qui nécessite justement d'avoir une opération qui la maintienne.
En quoi la configuration actuelle des Nations Unies à travers la MINUSCA constitue un frein à l'approche du maintien de la paix telle que vous développez?
Non, la question n'est pas en quoi. La question est justement de dire aujourd'hui la MINUSCA, cette mission multidimensionnelle qui intervient en République centrafricaine, est mise dans le cadre d'une opération de maintien de la paix. Donc d'où le fait de soulever cette situation pour dire qu'il faudrait à aujourd'hui en République centrafricaine avoir plutôt une opération qui soit sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui permette justement une intervention qui établisse la paix avant de pouvoir la maintenir.
La MINUSCA est justement sous le mandat du chapitre 7 et a aussi un mandat électoral, sauf que dans les faits, elle n'est pas en première ligne dans la reconquête du territoire centrafricain, dans la configuration de la crise actuelle. Comment est-ce que vous voyez déjà le plan de sécurisation des élections mis en place entre le gouvernement et la MINUSCA pour sécuriser le processus?
Alors, juste une petite correction. Aujourd'hui, la MINUSCA n'est pas sous le chapitre 7. C'est ce qui est demandé. Elle est dans le cadre d'une opération de maintien et non du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. En ce qui concerne le plan de sécurisation, vous avez noté que la République centrafricaine a fait appel à ses alliés, donc dans le cadre des accords bilatéraux qu'elle a, pour venir justement en renfort de ce plan de sécurisation pour lequel le mandat de la MINUSCA a été élargi, étendu à ce niveau et pour lequel, aujourd'hui, justement, ce jour même va se tenir au sein du Conseil des Sécurités à New York une réunion sur cette situation-là, sur l'appréciation d'une demande soumise par le secrétaire général des Nations Unies, donc M. Antonio Guterres, faisant suite à la demande de renforcement des capacités de la MINUSCA, exprimée toujours lors de cette réunion du 21 janvier 2021 du Conseil des Sécurités concernant le plaidoyer de la levée totale de l'embargo, où le représentant spécial, M. Mankur Ndiaye, a exprimé le besoin urgent de renforcer la MINUSCA en troupes et en moyens. Donc se tiendra aujourd'hui justement cette réunion à huis clos du Conseil pour pouvoir avoir l'aval du Conseil de sécurité pour ce renforcement-là. Et cette demande de renforcement en troupes et en moyens a été exprimée pour permettre justement de consolider ce plan de sécurisation, de consolider également le mandat de la MINUSCA, qui est un mandat de protection des institutions de la République et de la population civile, et de maintien de la paix, comme je disais précédemment.
Dans son dernier rapport, le Conseil de sécurité déplore la situation de couvre-feu en République centrafricaine qui, dans les faits, se traduit par des arrestations arbitraires et l'application du couvre-feu national qui s'est traduite par des recours disproportionnés et excessifs à la force. Que répondez-vous?
Écoutez, ce que je réponds, non, c'est que le couvre-feu a été mis en œuvre dans le cadre d'une situation qui était très claire. Bangui a été attaqué. Il y a eu beaucoup d'infiltrations. Il est bien de dire qu'il y a eu des arrestations arbitraires parce que on lit ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il faudrait venir attester de manière formelle et de manière factuelle ces bavures qui sont indiquées. Ce que je déplore, moi, c'est que l'on se limite dans ce rapport à des simples condamnations en ce qui concerne la population civile, parce que ce sont eux d'abord les principales victimes, pour donner la parole, pour revendiquer une démarche de déstabilisation qui, certes condamnée de manière orale, devrait être sur le papier, dans le rapport, faire l'objet d'une condamnation en termes de sanctions beaucoup plus fermes. Ce que la République centrafricaine attend, c'est que dans ce rapport, il soit clairement indiqué que le maintien de l'ordre constitutionnel passe par une condamnation ferme des acteurs et des ennemis de la paix, donc des acteurs qui viennent déstabiliser, attaquer les institutions de la République. Il est dommage que ça soit toujours cet aspect-là qui soit regardé. Et encore une fois, c'est aussi une forme d'impunité qui est remarquée, parce qu'il faut condamner, il faut sanctionner les oppresseurs et ne pas chercher à trouver ou à mettre en exergue des choses en extrapolant une dimension autre à des choses qui ne le sont pas. Que ce rapport puisse nous démontrer et confirmer que dans cette rébellion, il y a un certain nombre de groupes armés, leaders, qui ont fait l'objet d'exactions et que de ce fait-là, tous doivent être condamnés. Aujourd'hui, au niveau des comités de sanctions, je déplore le fait que l'ensemble de ces groupes armés ne fassent pas partie de la liste. Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à ceux qui ont produit ce rapport. On nous parle d'arrestation, de couvre-feu. Non, le couvre-feu est là pour sécuriser la population. Les moyens étant limités en termes de, au niveau de nos forces armées, nous cherchons par d'autres moyens qui sont dans nos possibilités, dans nos cordes, pour pouvoir faire au mieux pour assurer ce devoir régalien qui est celui des autorités centrafricaines d'assurer la protection de sa population.
Mais c'est quand même un fait qu'il y a des cas des exactions, il y a des cas des personnes qui sont tuées de façon extrajudiciaire.
C'est-à-dire ?
Il y a aussi des cas de personnes qui sont tuées dont les corps sont retrouvés au niveau de cimetière de Ndresse. Jusque-là, il n'y a pas une ouverture de l'information judiciaire irrelative.
Écoutez, je ne sais pas s'il y a eu des ouvertures. S'il y a eu des plaintes, il y aura des ouvertures de démarches judiciaires. Il faut qu'il y ait des plaintes pour pouvoir faire état.
Ok. Ces derniers temps, la diplomatie centrafricaine s'active. Luanda, pas plus tard que hier, vous avez été Yaoundé, vous avez été rencontrer le président Paul Biya. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce balai diplomatique?
Bah écoutez, de ce balai diplomatique, c'est juste une diplomatie qui œuvre pour faire entendre la voix et parler, expliquer la situation de la République centrafricaine et justement ne pas laisser nos pays amis, nos pays frères, nos pays voisins à la simple lecture des uns et des autres sur les réseaux sociaux parce que ça apporte une certaine cacophonie et ce n'est pas normal.
On assiste ces derniers temps à une sorte de nuage dans les relations diplomatiques entre la France et la République centrafricaine, ce à quoi l'ambassadeur en poste à Bangui demande à ce qu'il y ait de discussions autour. Vous qui êtes le numéro un de la diplomatie en Centrafrique, qu'est-ce que vous pensez de cette situation?
Écoutez, on assiste à un nuage dans toute relation. Relation humaine, vous savez que la diplomatie, c'est ça. C'est aussi des hommes avec un grand H qui se parlent. Il peut y avoir des points de discordance ou de divergence, mais le tout, c'est de se parler. Donc, je suis totalement ouverte à la discussion, à justement se poser pour mieux travailler ensemble. Je tiens aussi à noter que en 2019, après ma prise de fonction, j'ai sollicité un dialogue politique avec la République française. C'était justement l'objet était de pouvoir arriver à améliorer ce qui doit être amélioré, consolider ce qui est à consolider, de travailler ensemble. Parce que la meilleure façon de travailler ensemble, c'est de s'asseoir, c'est de se parler pour pouvoir mieux avancer. Donc je pense qu'on est dans cette disposition. En tout cas, les autorités centrafricaines sont dans cette disposition parce que la République française est un partenaire historique, est un partenaire aussi privilégié. Nous avons une forte communauté aussi centrafricaine qui se trouve en France. Donc de par tous ces liens qui nous lient, nous avons la nécessité, je dirais même le devoir, de pouvoir faire face aux fluctuations du monde, faire face à certaines réalités du monde aussi, parce que des fois ce ne sont pas des choses qui ne concernent que la République africaine, mais pour lesquelles la relation que nous pouvons avoir avec nos partenaires peuvent être utilisées pour mieux avancer. Donc je réponds totalement favorablement à ce qui a été exprimé par l'ambassadeur de France accrédité à Bangui.
Okay. Où se trouve votre curseur en matière de la souveraineté de la République centrafricaine dès lors que ce sont certains ambassadeurs, le cas de Vladimir Tshitonkou, qui annoncent des questions de dialogue intercentrafricain alors que c'est des questions qui devaient naturellement être portées par les autorités centrafricaines?
Il faut rester concentré sur ce qui est dit par les officiels. C'est pour ça que, au départ, je le prône et que je le mène, que la situation de la République centrafricaine est apportée par les officiels, les autorités centrafricaines. C'est ça la voie officielle, c'est ces messages-là auxquels il faut se tenir. Et en ce qui concerne le dialogue, il est aussi important de ne pas oublier que le président Touadéra a toujours et est toujours un homme de dialogue.
Madame la ministre Sylvie Baye-Potemon, je vous remercie.